France Inter.
Hélène Philippe pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. Elle retrouve sa voix 23 ans après l'avoir perdue. C'est une première en France. Une femme greffée du larynx à Lyon, une prouesse médicale et une nouvelle vie qui commence, vous l'entendrez. C'est un homme de l'ombre en Israël. Il négociait il y a encore peu de temps avec le Hamas. Il a accepté de nous parler au moment où Benjamin Netanyahou reçoit les familles des otages qui espèrent le retour de leurs proches. L'actualité, c'est aussi l'église protestante en Allemagne, rattrapée par un scandale d'abus sexuels. Une minute de silence au lycée de Thomas dans la Drôme. L'adolescente 16 ans tuée dans une bagarre ce week-end. Le choc est immense. Les maires de Mayotte à Paris pour réclamer plus face au manque d'eau. Et juste après ce journal, au téléphone sonne, on reparle des mesures pour la protection de l'enfance. Vos questions 01 45 24 7000.
France Inter.
L'intervention a duré au total presque 27 heures et une douzaine de chirurgiens se sont succédés par binôme pour qu'elle réussisse. C'était début septembre à Lyon. Une patiente de 49 ans qui respirait par trachéotomie depuis plus de 20 ans a été greffée d'un nouveau larynx et c'est une première en France. Il lui a redonné la parole. L'équipe médicale a raconté une prouesse prometteuse aujourd'hui à Mathilde Imberti.
Le pas franchi est immense pour l'orthophoniste qui suit Karine, la patiente transplantée, Nathalie Crouzet-Victoire.
C'est super, vraiment. On récupère le fait de dire, je vais parler avec ma fille, enfin. Enfin, ses enfants vont entendre sa voix, c'est bien.
Deux mois après l'intervention, la voix de Karine pointe à peine. Ici, enregistrée par France 3, l'une des toutes premières séances de rééducation.
On va faire les jours de la semaine.
Il faut aujourd'hui tout réappréhender.
Un jour, elle m'a dit, c'est bizarre, j'ai senti un truc. Et en fait, c'était de l'air tout simplement qui passait dans son nez, dans ses voies respiratoires supérieures.
La greffe de larynx a été coordonnée par le professeur Philippe Séruse, chef du service ORL à l'hôpital de la Croix-Rousse.
10 heures de prélèvement, 17 heures de transplantation et 2 nuits blanches.
Une prouesse de microchirurgie, car cet organe est fait de tout petits nerfs, artères et veines. L'équipe saura au terme d'une année entière si la transplantation est une réussite complète.
La voix qu'elle a, elle la trouve absolument épouvantable, et ce qui est normal, c'est difficile de reparler normalement avec un larynx qui ne fonctionne pas. Ça va aller mieux. On espère bien que ce larynx va être quasiment normal, c'est-à-dire qu'il va pouvoir s'ouvrir quand on respire, se fermer quand on parle. Ça, personne n'y est arrivé jusqu'à présent.
En France, une quinzaine de personnes vivent avec un larynx qui ne fonctionne pas suite à un traumatisme. La greffe pourrait leur être proposée à tous, à long terme, croit pouvoir dire le professeur lyonnais. Lyon, Mathilde Imberti, France Inter.
Le travail ne fait donc que commencer. Pour cette patiente, elle devra encore suivre pendant de longs mois des séances de rééducation, des cordes vocales, de la déglutition et de la respiration. Et se faire soigner dans les gares, c'est la proposition de la SNCF, on en parlait la semaine dernière, qui entend déployer quelques 300 espaces de télémédecine d'ici à 2028 pour lutter contre les déserts médicaux. L'Ordre des médecins réagit aujourd'hui et il n'y est pas du tout favorable. D'abord parce qu'il y voit une financiarisation de la santé et parce qu'une bonne médecine ne se fait pas à distance, insiste l'Ordre.
Elles ont marché pendant 5 jours pour exiger le retour de leurs proches.
Et pour mettre la pression sur le cabinet de guerre de Benjamin Netanyahou, les familles des otages israéliens sont reçus ce soir à Tel Aviv par le Premier ministre. Bonsoir Thibault Lefèvre.
Bonsoir Hélène, bonsoir à tous.
Correspondant en direct de Jérusalem, le gouvernement plus attendu que jamais sur cette question un mois et demi après leur enlèvement.
Oui, la réunion vient de commencer, Hélène. C'est seulement la deuxième rencontre du Premier ministre avec les familles d'otages. La première, c'était le 15 octobre, 8 jours après l'attaque du Hamas. Et Benjamin Netanyahou avait été accusé de ne pas assez prendre en considération leur douleur. Depuis, vous l'avez dit, ces familles se sont organisées et elles font pression tous les jours sur un gouvernement qui n'a toujours pas tranché entre deux objectifs qui, sur le papier, semblent contradictoires. Négocier pour sauver les otages ou bien en sacrifier certains pour anéantir le Hamas.
Le Qatar joue, les médiateurs annoncent dossier. Thibault, il affirmait hier qu'un accord était tout proche. Joe Biden, le président américain, le croit aussi ce soir. Mais c'est pas si simple, Thibault. Vous avez rencontré un ancien négociateur israélien. Il s'appelle Gershon Baskin. Et il y a encore quelques semaines, il était l'unique et le dernier israélien à discuter avec des représentants du Hamas.
Oui, Gershon Baskin négocie depuis 17 ans avec le Hamas. Son principal interlocuteur s'appelle Ghazi Hamad. Lui est porte-parole de l'organisation islamiste. Les deux hommes ont discuté ensemble entre 2006 et 2011 des modalités de la libération du soldat franco-israélien Gilad Shalit. Depuis le 7 octobre, les liens sont rompus car le Palestinien a appelé publiquement à l'anéantissement de l'État hébreu. Leur ultime échange date donc de la dernière semaine d'octobre.
Je lui ai fait une proposition et j'ai été très clair. Il était question de toutes les femmes, de tous les enfants, de toutes les personnes âgées et de tous les blessés. De mon côté, j'ai rassemblé des informations sur le nombre de femmes et de mineurs emprisonnés en Israël. Après un jour ou deux, il est revenu vers moi et il m'a dit qu'on avait le soutien des leaders à Gaza et à Doha au Qatar. Mais le lendemain, quand j'ai vérifié du côté israélien, j'ai appris que l'accord proposé par les Qatariens avait changé. J'en ai conclu que les leaders du Hamas, à l'extérieur de la bande de Gaza, n'avaient plus d'influence.
Les négociations directes sont donc terminées. En revanche, la médiation américano-qatarienne continue. Doha et Washington, vous l'avez dit, disent même être optimistes. Gershon Baskin, lui, l'est beaucoup moins.
Laissez-moi vous parler de Gilad Shalit. Gilad avait une radio la plupart du temps et il m'a dit que la chose la plus difficile qu'il a eu à vivre était d'entendre tout le temps qu'un accord était sur la table et que rien ne se passait. Les gens qui savent ne parlent pas et les gens qui parlent ne savent pas.
Pour l'ancien négociateur, les discussions pourraient donc durer encore un moment. Pour une raison simple, les dirigeants du Hamas à Gaza n'ont aucun intérêt, selon lui, à négocier avec un gouvernement qui a tout simplement promis de les anéantir.
Thibault Lefebvre en direct de Jérusalem, tandis que le premier hôpital de campagne, des infrastructures et des soignants sont entrés dans l'enclave de Gaza aujourd'hui en provenance de Jordanie. Les 28 bébés prématurés évacués hier sont arrivés en Égypte. La situation sanitaire toujours critique. Le Hamas annonce un nouveau bilan de plus de 13 300 morts désormais dans l'enclave. Et l'actualité au Proche-Orient résonne en France aujourd'hui au tribunal judiciaire de Paris avec ses comparutions pour des actes antisémites. Ils ont explosé depuis le 7 octobre. Plus de 1500 selon le ministère de l'Intérieur, c'est trois fois plus que sur l'année dernière. Les faits et les profils des prévenus varient énormément. L'homme jugé aujourd'hui l'était pour des menaces aux abords d'une synagogue et d'une école juive. Bonsoir Jean-Philippe Degnaud.
Bonsoir Hélène.
Vous avez suivi l'audience, un homme très fragile psychologiquement.
Impossible de savoir si c'est pour être agréable, si c'est inconscient ou s'il se moque des lois de la France, comme le croit la procureure. Mais dans le box, Mohamed sourit tout le temps. Impossible de savoir si c'est parce qu'il ne comprend pas le français ou parce qu'il souffre d'un trouble psychiatrique avec altération du discernement, comme a conclu un expert. Mais Mohamed répond souvent à côté, même sa traductrice s'y perd. Le 10 octobre, il était donc rue Petit devant une synagogue et une école de confession juive du 19e arrondissement de Paris. Rangers, treillis, doudoune kaki, sac à dos, cheveux ras. Il dit qu'il a crié à Allah Akbar parce qu'il a refusé d'être fouillé, qu'il a ajouté « for a bomb » pour une bombe quand les policiers l'ont interpellé, juste pour provoquer, mais qu'il ne voulait faire de mal à personne. Et quand le tribunal lui pose la question de l'antisémitisme, il dit « c'est quoi l'antisémitisme ?» Il dit que les fidèles de toutes les religions monothéistes sont des frères. Il dit qu'il voudrait juste rentrer en Allemagne, le pays où il réside depuis 8 ans. Le tribunal le condamne en soulignant des faits extrêmement graves. 1 an de prison ferme. Mohamed quitte le box avec des remerciements. Thank you. Et toujours son si mystérieux et large sourire.
Compte rendu d'audience signé Jean-Philippe Degnaud. Le jour d'après en Argentine, à quoi ressemblera-t-il ? Le président nouvellement élu, l'ultralibéral Javier Milei, promet qu'il ne mettra pas plus de 2 ans à contrôler l'inflation. 143% aujourd'hui. Il confirme un vaste programme de privatisation, des coupes drastiques dans les dépenses publiques. Ses postures d'extrême droite s'inquiètent, mais le FMI, le président du Conseil européen aussi, l'ont félicité aujourd'hui. Espérant, disent-ils, poursuivre la coopération.
22 mesures pour lutter contre les violences faites aux enfants.
Quelques jours seulement après le rapport de la Ciivise, la première ministre annonce plus de moyens pour la police, pour la gendarmerie. Une 50aine d'enquêteurs supplémentaires d'ici la fin du quinquennat. Une 30aine de recrutements aussi au 119 et au 30-18. Ces 2 numéros pour accueillir la parole des enfants. Et puis la formation proposée à 2 millions de professionnels. Isabelle Debré, la présidente de l'association L'Enfant Bleu, Enfance Maltraitée, se dit globalement satisfaite.
Prendre soin de ses enfants, c'est essentiel. Les enfants, ce sont les adultes de demain. Quelle société voulons-nous demain ? Il faut mettre des moyens humains et des moyens financiers. Nous avons fait paraître un livre blanc il y a une semaine avec des propositions qui rejoignent totalement les propositions que nous avons dans ce plan. La volonté est là, mais il faut que les moyens suivent. Renforcer l'accueil et le traitement du 119 et l'accueil téléphonique, ça me paraît une urgence absolue. Il n'est pas normal que lorsque des victimes appellent ou des personnes qui veulent alerter n'aient pas de réponse. Il faut que l'enfant parle, mais une fois qu'il parle, il faut l'accompagner. Et là aussi, il faut des moyens humains. Il faut une psychologue, il faut une juriste. Il faut. Si un enfant parle et qu'on ne l'accompagne pas derrière, c'est double peine pour lui.
Isabelle Debré avec Alice Cachaner. Et si un enfant parle, il faut agir. En Allemagne, après les catholiques, ce sont les protestants qui sont rattrapés par un scandale d'agression sexuelle. Il remonte aux années 90. La responsable de l'église vient de démissionner. Bonsoir Sébastien Baer.
Bonsoir.
Annette Courchousse, soupçonnée d'avoir gardé le silence alors qu'elle avait été informée de plusieurs affaires.
Oui, Hélène, à l'époque des faits, Annette Courchousse était pasteur à Siegen. C'est une ville de 100 000 habitants de l'ouest de l'Allemagne, près de Cologne. Selon le quotidien Siegener Zeitung, au moins deux hommes l'auraient alerté des agressions sexuelles commises par un collaborateur. Le suspect est un ami d'Annette Courchousse, un homme d'une soixantaine d'années, aujourd'hui à la retraite, que la pasteur aurait choisi de ne pas dénoncer. Une nouvelle fois, la théologienne a démenti avoir été informée. Elle a démenti toute volonté de dissimulation. « Je suis en paix avec moi-même », a-t-elle dit tout à l'heure. Mais ces derniers jours, la pression était devenue intenable pour celle qui avait promis, en prenant ses fonctions, de mener une lutte sans merci contre les violences sexuelles. Confrontée à un torrent de critiques et surtout à la défiance de ses collaborateurs, Annette Courchousse s'en va, dit-elle, pour ne pas ternir l'image de son église. Avec près de 20 millions de fidèles, l'église protestante est la deuxième d'Allemagne. Comme l'église catholique, elle traverse une grave crise de confiance marquée par plusieurs scandales. Le départ de très nombreux fidèles, 380 000 rien que l'année dernière. Ses responsables ont commandé une étude pour mesurer l'ampleur des abus sexuels commis ces dernières années. Avant même de connaître les résultats annoncés pour janvier, 80% des membres de l'église protestante estiment qu'elle doit changer fondamentalement pour s'offrir un avenir.
Sébastien Baer, en direct de Berlin, en France. L'évêque de La Rochelle, Georges Collomb, vient d'être mis en examen pour tentative de viol sur un homme majeur. Placé sous contrôle judiciaire, les faits remontent à 2013. Il s'était mis en retraite ses fonctions en juin dernier après la révélation de l'enquête dans la presse. Comment une bagarre en marge d'une fête de village a pu si mal tourner dans la Drôme? Une minute de silence a été respectée aujourd'hui dans le lycée du jeune Thomas, 16 ans, tué ce week-end de plusieurs coups de couteau sur la commune de Crépole. Une dizaines de jeunes étaient venus en découdre. Le maire de Châlons, où vivait la victime, est toujours aussi abasourdi. François Combe avec Erwan Chassin de France Bleu Drôme Ardèche.
C'est traumatisant pour tout le monde. Tout le monde est dans un état de sidération complète. Une énorme peine, évidemment, une tristesse infinie. On pouvait tous espérer que la vie se déroule normalement et que quand on a 16 ans, on peut s'amuser, on peut aller voir des amis sans crainte, particulièrement dans nos collines, là, où on est un peu à l'écart. Et puis voilà, on voit qu'un drame arrive. Et donc, on ne comprend pas du tout cette situation. On ne comprend pas comment des gens peuvent faire ce genre d'acte. Tout simplement épouvantable et inimaginable pour cette famille qui est touchée comme ça. Thomas, c'est un lycéen qui est au lycée du Dauphiné. C'est un rugbyman. Tous les rugbyman que je connais sont des gens qui sont calmes. C'est un gamin sans aucun problème. Il me semble que les gens qui ont été touchés, tués ou blessés n'ont rien de particulier. On a l'impression que c'est tombé au hasard.
Le maire de Châlons, la bagarre a aussi fait 8 blessés, dont 2 jeunes de 23 et 28 ans, hospitalisés dans un état grave. Une enquête a été ouverte, mais aucune interpellation n'a eu lieu à ce stade.
De l'eau potable un jour sur trois et encore.
Mayotte rationne toujours face à une sécheresse exceptionnelle et si la distribution d'eau est générale depuis aujourd'hui, les édiles mahorais sont venus rappeler à Paris, aujourd'hui à la veille de l'ouverture du congrès des maires, à quel point la situation est catastrophique. Maxence Lambrecq est allé à leur rencontre au palais des congrès d'ici les Moulineaux.
Un pack d'eau par personne et par semaine. La distribution a démarré ce matin dans la commune de Sada, 12 000 habitants à l'ouest de l'île.
Là, on est en plein dedans et je peux vous dire que la souffrance est énorme. La vie dans nos maisons, c'est difficile.
Le maire Oussamadine Abdallah.
Là, on espère, on nous a promis beaucoup de plus cette année et on espère que d'ici janvier déjà, la crise sera finie. Mais en même temps, il ne faut pas se dire que on a les pluies et là c'est bon, on fait rien. Il faudra qu'on continue sur cette lancée.
Et donc que les travaux se poursuivent. En ce moment, ce sont les centres communaux d'action sociale qui distribuent les bouteilles. Leur président ex-député Luc Carvounas dénonce la mauvaise volonté de Suez et Veolia, notamment dans les travaux d'aménagement.
Ils n'y vont pas parce qu'ils considèrent que
rapport investissement sur usagers abonnés, ça sera pas rentable pour eux. Bah oui, parfois ça s'appelle un service public. Service public, c'est pas toujours rentable. Voilà.
Nous, on fait tout ce qu'on peut. Tel est le discours du ministre des Outre-mer, Philippe Vigier, devant une assemblée impatiente.
Mais je n'y peux rien s'il y a 50% de fuite. Qui peut me dire dans la salle qu'on construit une usine de désalinisation en moins de 18 mois? Qui? Qui peut me dire qu'on construit une station d'épuration en moins de 18 mois? Qui? Nous aurons mis au 31 décembre 100 millions d'euros sur la table à Mayotte. Et je tiens le détail pour qui veut. 100 millions.
Il sera de retour sur place la semaine prochaine pour vérifier que les distributions se poursuivent.
Le reportage Maxence Lambrec. Et voici un autre sujet de préoccupation des maires, dont il sera sans doute question à partir de demain. Comment garder des centres-villes vivants avec des commerces? Plus de 80% des communes rurales n'ont plus d'épicerie. La solution passe peut-être par cette formule, des épiceries gérées par des habitants bénévoles. Ils s'occupent de tout, de A à Z. Caroline Félix en a appelé une dans l'Hérault.
Pas de supermarché à moins de 10 km, une population vieillissante, la commune du Bosc dans l'Hérault avait vraiment besoin d'un commerce. Alors avec son association, Mario Proust a monté une épicerie participative cet été.
On est ouvert 4 jours sur 7, 9h midi, 16h, 19h.
L'association a reçu des sous de l'État et de la mairie pour payer frigo, caisse, découpeuse à jambon, mais pas les salaires, puisque les habitants sont bénévoles.
La personne qui va arriver le matin, elle doit réceptionner les marchandises, ouvrir simplement le magasin. Et puis après, ça va être les encaissements, comme une épicerie classique.
Avec ce bénévolat, moins de marge à faire et des produits souvent locaux, moins chers que dans une épicerie classique. Un peu plus au nord, au Chastan, en Corrèze, l'épicerie participative est plus modeste, ouverte le week-end, pas plus. Mais c'est surtout le lieu de rencontre qui manquait tant depuis la fermeture de l'école il y a 6 ans, le maire Florent Moussour.
Certaines personnes qui vivaient à 50 mètres l'une de l'autre depuis 10 ans, eh bien, ils se sont rencontrés à l'épicerie. Qui se font un plaisir à venir faire l'épicier. Ça discute, ça rigole. C'est vraiment un chouette endroit, quoi.
Et 75 des 370 habitants se relaient à raison de quelques heures par mois pour faire vivre cette épicerie.
Et l'Association des maires ruraux de France lance une opération pour donner un coup de pouce financier à ce type d'initiative. Les candidatures sont à déposer jusqu'au 20 décembre. Valdune, le dernier fabricant en France de roues de train placées en redressement judiciaire. Un moyen d'accélérer la reprise, espère la CGT, 7 mois après le désengagement de l'actionnaire chinois. L'emploi pour les personnes handicapées, elles ont encore beaucoup de mal à trouver un travail, à s'insérer sur le marché de l'emploi. Alors pour sensibiliser les employeurs à l'occasion de la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, vous verrez peut-être ces affiches avec le visage de Capucine Lecronier. Elle habite dans le sud de la Manche et elle recherche un travail depuis plusieurs années sans succès. Antoine Lifo l'a rencontrée chez elle.
Joie, honte.
Capucine, fierté. Pour évacuer à un jeu de cartes qui représente ses émotions.
Voilà. Et là, par exemple, tu dirais quelle carte?
Être détendue. Est-ce que tu veux un café?
Ouais.
Moi, ce que j'aime, c'est un peu de tout.
Elle est atteinte de trisomie 21.
Je me plains pas.
Elle pourrait, pourtant, voilà 5 ans qu'elle cherche un travail de palefrenière dans un centre équestre, toujours rien.
Non, j'avais pas réussi à trouver du boulot là-dessus.
Tu cherches toujours?
Oui, je cherche toujours, mais au bout d'un moment, je me suis dit que si j'y arrive pas, je vais trouver dans un autre domaine.
À 26 ans, elle réfléchit donc à abandonner. Pour sa mère, Christelle, pas question de jeter l'éponge.
Elle est pas effondrée, hein. Capucine, elle a un tempérament... D'une part joyeux, et puis elle s'investit dans beaucoup de choses. Mais ce qui est difficile, c'est que c'est le sentiment que personne n'a besoin d'elle. Et vraiment, dans sa recherche d'emploi, et quand on est allé voir certaines structures, elle dit « Mais moi, je peux faire ça, ils n'ont pas besoin de moi. »
Pour Capucine, la société a encore beaucoup à apprendre d'elle.
Est-ce que tu as un rêve aujourd'hui? Palefrenier, peut-être?
Oui. Palefrenier, ouais.
Capucine Lecronier, rencontrée par France Bleu Cotentin. Allez voir son CV. Elle revient, mais cette fois-ci, ce ne sera pas pour faire le show. Travail d'un soir pour Valérie Lemercier. Elle assurera le rôle de présidente de la 49e cérémonie des Césars. Ce sera le 23 février prochain, après avoir été 3 fois maîtresse de cérémonie.
Et merci beaucoup, Hélène Philly. Vous reviendrez demain. Merci pour le journal. Nous, dans un instant, c'est le téléphone sonne. On va parler de la suite du rapport de la CIVI sur l'inceste, qu'est-ce qu'on fait derrière? Ce sera dans un petit instant, la météo d'abord.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Sébastien Léas, encore des averses demain, surtout dans le sud.
Oui, les averses qui circulent actuellement entre le nord de la Loire et le Grand Est vont lentement glisser vers le centre-est pour s'attarder demain en Auvergne-Rhône-Alpes et en Franche-Comté. Alors progressivement, ces averses vont tout de même se cantonner au relief. Entre le Pays Basque et l'Ariège, les pluies sont déjà régulières et il va continuer de pleuvoir jusqu'à demain avec des cumuls parfois importants. En montagne, la limite pluie-neige se situera vers 1200-1500 mètres d'altitude avec là aussi de bonnes quantités de neige attendues sur les Pyrénées. Sur le reste du pays, le temps sera généralement plus sec, même si quelques averses pourront se faire remarquer près de la Manche ou encore sur le quart nord-est, mais aussi sur la Corse en fin de journée. Les éclaircies vont se développer entre l'embouchure de la Gironde et la Bretagne jusqu'en Normandie, gagnant aussi les Hauts-de-France et la région parisienne demain après-midi. Et puis sous l'impulsion du Mistral et de la Tramontane qui vont se renforcer, le ciel sera plus dégagé entre le Roussillon et la Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Avec quelques degrés de moins également.
Oui, petit à petit, les températures se rapprochent des normales de saison qu'elles retrouveront mercredi. Les maximales de demain seront encore un peu au-dessus des normales, 10 degrés à Metz, Mulhouse, Besançon et Grenoble, 11 degrés à Arras et à Caen, 12 degrés pour Agen, 13 degrés à Rennes, Paris, La Rochelle et Biarritz, 14 degrés à Lorient et à Carcassonne, on attend 15 degrés à Mont-de-Marsan, 16 degrés à Nîmes et Aix-en-Provence et 18 degrés pour Antibes et pour Calvi.
Sébastien Léas de Météo France, merci beaucoup.